Alain Gras, vous êtes sociologue, vous avez travaillé beaucoup sur l'histoire des techniques. Vous avez publié l'année dernière un livre aux éditions Payot. Ça y est, là j'ai le trou de l'émotion, Fayard. J'ai le trou de l'émotion. Le titre c'était
Fragilité de la puissance,
un très beau titre. Et vous nous parlez du pétrole.
Merci, mais je sais
pas
si ça marche.
Fragilité de la puissance chez Fayard.
Oui, le sous-titre, c'est se libérer de l'emprise technologique, pour préciser ma pensée. Oui, fragilité de la puissance, certainement, mais tu me mets un peu dans l'embarras, Jacques, parce que je savais bien que tu allais parler de Nicolas Georgescu-Rogen, mais je pensais que tu allais aborder cette fiction savante qu'est l'épistémologie. Et en tout cas, que tu parles des thèses autant de Jacques Grinevalt que de Georgescu-Rogen, sur la société thermo-industrielle, parce que c'est ça dont je vais vous parler. Et je suis donc un peu gêné, puisque tu n'as pas parlé de l'entropie dans un système fermé qui est le nôtre, celui de la machine qui fonctionne à l'énergie fossile, et celui aussi de la société thermo-industrielle dans laquelle nous nous sommes enfermés. Donc j'en parlerai peut-être un petit peu cet après-midi, où j'aurai un exposé plus théorique, parce que là je pensais faire quelque chose de vraiment très, très appliqué, très concret. On m'a demandé en fait de remplacer des conférenciers qui auraient pu être là, par exemple Campbell, Laherrer, Bokis, qui sont des experts pétroliers. Je ne suis pas moi-même expert pétrolier ni géochimiste. Et donc les thèses que je vais défendre sont en fait des thèses que j'ai reprises. Non, vous pouvez le mettre au milieu, au contraire, s'il vous plaît. Parce que plus loin pour qu'on puisse bien voir. Donc je vais présenter des thèses qui vont vous paraître, peut-être à certains d'entre vous, un peu farfelus. On n'entend pas souvent parler dans les journaux, et je m'en étonne d'ailleurs, des thèses sur le pétrole et la finitude à court terme de cette ressource. Ces thèses ne sont pas les miennes, ce sont donc des thèses d'experts pétroliers. Par contre, les thèses qui sont les miennes, qui se rattachent à ça, je pensais que Jacques Grinevalt les aurait développées. Alors, je voudrais simplement commencer par parler de trois énigmes qui accompagnent le développement de notre société. La première énigme, c'est celle du feu. Parce que, au fond, notre société se fonde sur un des quatre éléments. Les Chinois, ils en ont cinq, hein, ils ont le bois aussi. Mais enfin, notre société se fonde uniquement sur la puissance du feu. Et jusque-là, jusqu'au XIXe siècle, on ne s'était pas du tout rendu compte que le feu était un moyen de la puissance, était un moyen de la technique. Vous aviez la première révolution industrielle, celle des moulins, des mills, s'est faite avec l'eau. Ce n'est que tardivement, je vous montrerai un graphique tout à l'heure, que la civilisation est devenue celle de l'énergie fossile, avec la machine à vapeur. Donc, et il n'y a évidemment là aucune fatalité technique. Il y a des choix qui se sont faits, il y a des coalescences, des concaténations, des percolations, j'ai des collègues qui aiment bien ces mots-là. Il s'est produit quelque chose au XIXe siècle qui a fait que nous sommes tombés dans la civilisation du feu, et nous y sommes là en plein. Et donc nous sommes coincés dans un type de machine qui fonctionne à l'énergie fossile et avec la puissance du feu. C'est ce que Jacques Grinevalt appelle la société thermo ou la civilisation thermo-industrielle. Et je pense que ce terme est particulièrement bien choisi. Il n'y a pas de société moderne ou post-moderne. Il y a une civilisation thermo-industrielle et nous sommes toujours dans celle-là. Voilà, ça c'était le premier point lié à l'énigme du feu. La deuxième, donc, c'est l'énigme du choix de la machine dans la révolution industrielle qui n'était pas évident, absolu, et qui pourtant a été à un certain moment ce que les puritains de l'époque appelaient the true and only even, le paradis mécanique. Et la troisième énigme, qui est contemporaine, c'est que le mur est devant nous. Nous avons construit cette méga-machine dont parle Latouche et dont Lewis Mumford avait été le créateur du concept. Nous sommes dans la méga-machine qui fonctionne avec cette énergie-là. Nous savons que nous allons dans le mur, et au lieu de regarder le mur, nous accélérons vers ce mur. Donc voilà, ça c'était les trois premiers trois premières interrogations, et maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, mais je ne pouvais pas ne pas en parler, puisque précisément le pétrole est au cœur de cette dimension thermo-industrielle. Alors, d'abord, un imaginaire qui est le nôtre, en fait, que nous partageons, c'est le songe de Watt. Je ne voyais peut-être pas très bien au fond. Mais là, Watt, voyant la vapeur sortir d'une théière, bien sûr, il est anglais, la vapeur sortir d'une théière, il imagine la civilisation industrielle. Vous voyez, la beauté de ce nouveau paradis, the new and only true heaven, ce paradis puritain de la machine. Rappelez-vous, tous les grands Newcomen et les autres étaient des puritains écossais. Et voilà, vous avez donc ici une autre version de l'éthique du travail, mais l'éthique du travail transposée sur la machine. Ensuite, vous avez là une illustration du caractère récent de notre civilisation. Vous voyez que vous avez ici en milliards de tonnes équivalent pétrole, la puissance dégagée dans les machines de 1700 à 2000. Eh bien, vous voyez qu'en fait, ce n'est que vers 1850 et encore, même plus tardivement, que se développe la civilisation dans laquelle nous sommes. La révolution industrielle s'est faite en partie avec le vent et l'air. Donc nous sommes une civilisation, au fond, très récente, et on croit qu'elle va durer dans toute l'éternité. Une autre façon, je redonnerai ce graphique cet après-midi dans un autre contexte. Encore plus récent, c'est la civilisation du pétrole. Vous avez vu donc le caractère nouveau de l'énergie thermique comme moteur au sens propre de la révolution industrielle. Mais là, on voit aussi que le pétrole a commencé à être un élément au cœur de notre civilisation que très tardivement, après les années 1950. Donc en fait, notre société n'existe que depuis 50 ans. J'exagère, bien sûr, puisque je dis au contraire que ça fait longtemps que nous avons choisi l'énergie fossile. Mais ce type de machine dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est fondée sur une vision, disons, sur une vision de flux qui circule constamment dans le monde. On a les oignons, on reçoit les oignons rouges de Tasmanie, les roses du Zimbabwe. À cette méga machine dans laquelle tout circule sans arrêt avec une chorégraphie organisée par l'OMC, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est fondé sur le pétrole. Et la part du pétrole a augmenté considérablement en cause des transports. Elle est passée de 43 à 52% entre 93 et 2000 en raison du développement des transports. Donc au cœur de la mondialisation, vous avez la machine thermique et un type de machine thermique, c'est celle qui est fondée sur le pétrole. Et alors, je vais vous montrer un autre graphique, un petit tableau plutôt, que vous connaissez tous parce que je pense que vous êtes tous intéressés à la question puisque vous êtes là, mais même ces banalités, c'est bien de les rappeler. Vous voyez, la consommation d'énergie primaire par habitant est de 8 tonnes équivalent pétrole en Amérique du Nord, elle est de 4 au Japon, elle est de 3,5 en Europe de l'Ouest, et dans le monde, elle n'est que de 1,7. En Inde, elle est de 0,5. Ce sont des chiffres pour l'an 2000. Donc, il y a une réalité de l'inégalité entre les peuples face à l'usage de cette énergie. Alors, évidemment, quand on voit ça, il n'est pas possible d'envisager le développement. Évidemment, en même temps, en disant cela, vous direz, mais vous êtes égoïste. Et c'est ce qu'on entend toujours, vous êtes égoïste, vous ne voulez pas du développement que nous avons. Eh bien, précisément, c'est à nous de changer. C'est à nous de changer notre développement, c'est à nous de changer et donc d'adopter une autre stratégie pour l'avenir. Mais ça, c'est l'objet de la conférence, enfin du colloque aujourd'hui. En tout cas, vous voyez que le mur, il est là. Il n'y a pas besoin d'argumenter. Il suffit de regarder, un tableau parle plus qu'un grand discours. Et alors maintenant, venons-en au pétrole. Alors, le pétrole. Les pétroliers produisent beaucoup de statistiques sur les réserves de pétrole. On En général, on nous parle de 2050-2040 pour l'épuisement des puits pétroliers. Mais en fait, cela recouvre des réalités très différentes. Parce que vous avez des huiles conventionnelles qui ne coûtent rien à extraire et qui ont une énergie extraordinaire. Donc il y a un rapport qualité énergétique, coût d'extraction qui est très faible. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'extraction de ce pétrole, on va rencontrer des difficultés de plus en plus grandes. Et on va passer à des huiles non conventionnelles. Et très rapidement, ces huiles non conventionnelles, en fait, coûteront aussi cher à extraire que l'énergie qu'elles donneront. En termes de bilan énergétique, les huiles non conventionnelles, bientôt, auront un bilan nul. D'une part. D'autre part, vous avez aux États-Unis un géochimiste spécialiste consultant des grands groupes pétroliers dans les années 50 qui s'appelle Hubert King. J'ai l'habitude de toujours, déviation, perversion de prof, j'ai toujours besoin d'écrire. Je n'ai pas ici de tableau noir. King Hubert, Hubert avec deux B. C'était son nom de famille. Et donc ce King Hubert a établi des modèles pour les pétroliers, très compliqués, mais qui se sont avérés extrêmement efficaces dans les prévisions. Il avait prévu en particulier le pic de pétrole, le pic de production du pétrole dans les années 70, 72, il avait prévu aux États-Unis, ça s'est passé en 70. Il avait prévu le pic de pétrole dans la production d'Alaska à la fin des années 80, ça s'est produit en 88. Et alors, il avait prévu le pic de production pour le monde dans les années 2006-2010. Et cette idée de pic de production est extrêmement importante. Parce que vous avez vu, là, il y a eu encore des petites fluctuations sur le cours du pétrole, là, ce dernier jour. Si jamais on atteint un pic de production, l'affolement sera général. Lorsqu'il y a un retournement de la tendance dans l'extraction du pétrole, lorsque la pénurie se matérialisera, même d'une manière fantasmatique, même si c'est dans 20 ans. Lorsque le pic de production sera là, on verra apparaître la pénurie à venir, même si celle-là est très lointaine. Donc ce n'est pas l'absence de pétrole en tant que telle qui est importante. C'est l'imaginaire qui va se développer à partir de là. Et la manière aussi dont cet imaginaire va se transformer dans des chocs boursiers extrêmement dangereux. Et alors, je commence d'abord par quelque chose qui est tout à fait accepté par tout le monde. C'est le rapport entre les réserves restantes de pétrole et de gaz et la production. Ce qui nous intéresse ici, c'est, disons, le pétrole. Ça, c'est dans ce qu'on appelle le South Pass. C'est en fait le grand gisement pétrolier dont on parle aujourd'hui, qui est Iran, Irak, Koweït. Eh bien, pour ces réserves-là, les prévisions, vous voyez, nous amènent à un rapport entre réserves et production qui baisse et qui atteint le point zéro en 2030. Ça, ce sont des statistiques qui sont acceptées. Et voilà maintenant des statistiques présentées par un Américain qui a refait les calculs de Hubert. De Hubert, qui lui est encore plus pessimiste. Lui, c'est De Fayez. Si vous regardez mon livre, vous pourrez trouver dedans. Hein. De Fayez, lui, est encore plus pessimiste, dit, pessimiste du point de vue des thermo-industriels, nous dit, c'est en 2004 que ça peut commencer à se produire, c'est-à-dire demain. Et De Fayez, donc, reprend les calculs de Hubert pour indiquer. Attendez, il n'y a pas l'année là. Pour indiquer donc le pic de production dans les années 2000-2010. De Fayez dit que ça peut se produire plus tôt, mais enfin, en gros, c'est 2010. Et de toute façon, que ce soit conventionnel ou non conventionnel, ça revient un petit peu au même. Et même chose pour les liquides et gaz. Et si vous faites notre graphique qui inclut l'ensemble des hydrocarbones, vous retrouvez à peu près la même chose. C'est-à-dire que il est vrai que c'est 2050, je suis désolé, c'est la photocopie, le transparent, je ne l'ai pas bien, ça n'apparaît pas bien, c'est 2050 que vous avez à droite, c'est le moment où vraiment se produit la rupture pour le pétrole. Hein. Le pétrole, on dit 2050. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le Hubert Peak, c'est au plus tard en 2010. Alors, il est évident qu'il y a des fluctuations en rapport avec le mode de développement de nos sociétés, si nous avons croissance ou décroissance, ou non-croissance. Il est évident que c'est lié aussi au type de technologie que l'on va développer, mais quel type de technologie va-t-on développer innovatrice dans les prochaines années? Il n'y en a pas. Alors, la question qui reste posée est donc, que va-t-il se passer? La civilisation dans laquelle nous sommes, qui est fondée donc sur les flux, incessants, ce caprice des flux, va se trouver, non peut-être pas paralysée, mais se va trouver fortement enrayée dans sa progression par le problème pétrolier. Et nous n'avons pas de substitut à cela. Nous avons des substituts au pétrole pour certains usages. L'énergie électrique, par exemple, et je vais en dire deux mots à ce propos, la raison pour laquelle ne sont pas venus les spécialistes, l'énergie électrique, par exemple. Mais ça ne fait pas voler des avions. Ça ne fait même pas rouler des camions. La pile à combustible, c'est un désastre sur le plan énergétique. C'est une absurdité thermodynamique. Donc, il n'y a pas, à court terme, d'innovation technologique prévisible pour substituer une énergie au pétrole. C'est intéressant de penser à cela parce que la civilisation industrielle s'est toujours fondée sur la découverte, le renouvellement de la technologie. Lorsque le capitalisme s'est aperçu que les moulins à vent et les moulins à eau surtout n'étaient plus assez efficaces, eh bien, on a découvert l'énergie thermique, les machines à vapeur, pour se substituer à eux. Ensuite, les machines à charbon qui étaient très polluantes, qui posaient des problèmes, ont été remplacées par les machines à essence. Donc chaque fois, cette société thermo-industrielle, ou d'abord industrielle, a trouvé des innovations technologiques fondamentales pour substituer une machine à une autre, un moteur à un autre. Maintenant, on n'en voit pas. On n'en voit pas de possible. L'énergie nucléaire, elle est une possibilité, encore une fois, pour certains usages, mais pas pour celui-là. Et quant à l'énergie nucléaire, c'est évidemment un danger gigantesque qu'elle recèle en elle. J'en parlerai peut-être un petit peu cet après-midi. Il ne s'agit pas de considérer l'énergie nucléaire comme ayant un risque calculable. L'énergie nucléaire, c'est un danger. Un point, c'est tout. C'est un danger mortel. Alors, il n'y a pas à discuter. Lorsqu'on commence à parler de risque, de probabilité, de dire, comme Rasmussen, qu'il y a plus de chances d'avoir recevoir un astéroïde sur la tête que d'avoir une centrale nucléaire qui diverge, c'est absurde. Bien, donc, il n'y a pas de substitut à cette énergie-là, et cette civilisation du feu dans laquelle nous sommes engagés se trouve donc maintenant dans une impasse. Et je n'ai pas de solution alternative pour l'instant. Cette solution, elle ne viendra que de vous, que de nous tous. Mais dans tous les cas, ce qu'il importe, c'est de briser la prison imaginaire dans laquelle nous sommes enfermés. C'est comprendre que ce progrès-là n'est pas un progrès. Et peut-être inventer un alter-progressisme, comme il y a un alter-mondialisme. Mais dans tous les cas, il est évident que nous sommes confrontés à une réalité d'évidence. Et que, quelles que soient les modalités de l'échec, il y aura échec de cette technologie. Voilà ce que je voulais vous dire.
Alain, juste peut-être, parce que je me pose la question, donc je la pose tout haut. Tu dis que le système, jusqu'à présent, a toujours inventé des alternatives et que là, pour la première fois, apparemment, on serait devant une absence de recherche et de réflexion. On sait aussi qu'il y a une fascination pour la vitesse, une espèce de plaisir civilisationnel à aller extrêmement vite et à bifurquer au dernier moment. Enfin, je veux dire, on voit ça avec les voitures tout le temps, on voit ça, c'est comme si c'était inscrit dans les comportements actuels. Le temps qui a été nécessaire les fois précédentes pour passer d'une technologie à une autre, tu as une idée ou pas?
Le temps, Oui, c'était de plus en plus court. C'est-à-dire qu'on est passé, la technologie du moulin à eau, elle est inventée en Europe, parce qu'elle existait depuis longtemps avant, hein, mais elle est en Europe, elle se développe à partir du XIIe siècle, elle va jusqu'au XIXe siècle. Mais la technologie de la machine à vapeur, la vraie machine à vapeur, ça aussi, j'en parlais tout à l'heure, enfin, mais la vraie machine à vapeur, c'est la locomotive, elle se met en place, elle dure un siècle, et puis ensuite elle est remplacée par une autre technologie du moteur à explosion. Donc ça se raccourcit de plus en plus. Donc on pourrait effectivement penser qu'on va vite trouver une technologie, qu'on va en inventer une. Mais en même temps, aujourd'hui, on sait aussi que pour développer de nouveaux instruments techniques, il y a une inertie sociale qui n'existait pas au siècle, au XIXe siècle ni au XXe siècle. La société pétrolière, elle est le fruit de la Deuxième Guerre mondiale. Elle va aussi avec le développement de l'aviation militaire. On ne voit pas en tout cas, malheureusement ou heureusement, on ne voit pas même ces effets d'entraînement qu'aurait le militaire aujourd'hui.